Luc chapitre 15. Vous savez, il y a des attitudes et des actions humaines qui ont des répercussions dans les cieux, au niveau de la salle de la majesté, de la salle du trône de la majesté divine. Et une de ces actions-là, elle est mentionnée à quelques endroits dans la Bible, on la trouve dans Luc chapitre 15 et le verset 7. C'est encourageant. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et nous savons que tous les êtres humains ont besoin de se repentir. Bien sûr, ce n'est pas à tous les instants de notre vie, mais on a besoin de se repentir de façon générale dans tout ce que nous faisons. Mais ce qui est mentionné ici, c'est que le Christ dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ou encore, on peut mentionner, il y a eu beaucoup de joie, il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsque quelqu'un qui a abandonné la vérité revient à la maison, pour ainsi dire, et retrouve les voies de Dieu pour en vivre. Cette joie-là, dans le ciel, elle existe aussi au moment où quelqu'un que Dieu appelle se repent et se fait baptiser. Parce que c'est à ce moment-là que toutes les fautes de notre vie passée sont effacées. Et à ce moment-là, il y a non seulement de la joie dans le ciel, mais je sais par expérience, pour avoir baptisé plusieurs personnes, qu'il y a de la joie dans le cœur de la personne qui est baptisée. Parce que pour elle, c'est la première journée, pour ainsi dire, de sa nouvelle vie, de sa vie spirituelle, en tant que nouvelle création, en tant que nouvelle créature. Et bien sûr, il y a de la joie dans le ciel à ce moment-là aussi. Regardons le verset 8 à 10 un peu plus loin. Il pousse un peu plus loin l'analogie en disant, « Ou quelle femme, si elle a 10 dragmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la dragme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, et le Christ répète, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Mais est-ce qu'on réalise, au-delà de ça, qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsqu'on se repent, et pour nous, mais que ça ne doit pas être l'affaire d'une seule fois, ou d'un seul jour, ou d'un seul moment dans notre vie? Est-ce qu'on réalise vraiment qu'on doit continuellement avoir une attitude de repentance? Et c'est ça le thème de mon message aujourd'hui, une attitude repentante continuelle. Et ça, il faut en être conscient, puis il faut en vivre chaque jour, c'est-à-dire être enseignable, être humble, ça veut dire aussi être disposé à être corrigé. Quand on voit dans la parole de Dieu qu'il y a quelque chose qu'on fait qui est contraire à la volonté de Dieu, on doit déterminer de changer et faire les efforts, demander l'aide à Dieu pour le faire. Si on voit par nos actions que ça crée des réactions négatives chez d'autres, ça veut dire qu'on transgresse une loi, là, on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire. On doit peut-être aborder les autres avec plus de douceur. Alors, on doit avoir l'humilité de reconnaître ça, d'analyser nos propres façons de faire, puis là, de dire, je veux changer ça. Ça, c'est l'attitude de repentance continuelle. De se repentir quand nos fautes nous sont montrées, soit dans un message par les serviteurs de Dieu, soit dans la Bible, quand on lit sa parole, ou soit par des gens autour de nous, quand on voit leur réaction être un peu négative par rapport à nous. C'est parce que nous, on a mal présenté les choses ou on a réagi trop vite ou tout ça. À la Pâque, chaque année, on renouvelle notre engagement. Et c'est formidable. Et quand la Pâque arrive chaque année aussi, souvent, les nouvelles personnes qui sont avec nous dans l'Église et qui commencent à comprendre le plan de Dieu, ou les jeunes gens qui sont avec nous, bien sûr, ne peuvent pas prendre la Pâque tant qu'ils ne sont pas baptisés, mais dans un certain sens, prennent des engagements, c'est-à-dire déterminent de s'approcher de Dieu, puis de vivre selon ses voies en préparation du baptême. Alors, là aussi, c'est une joie spéciale. Mais lorsque les baptisés, chaque année, prennent la Pâque, ils renouvellent leur engagement, un, d'accepter le sacrifice de Christ, sur le plan spirituel, parce que c'est son sang versé qui lave nos fautes, on sait, et deux, d'accepter son sacrifice dans ses douleurs physiques, Parce que comme la Bible nous montre, c'est par ces blessures et ces meurtrissures physiques que nous pouvons obtenir la guérison de Dieu lorsqu'on est malade ou lorsqu'on est blessé. Alors, on renouvelle notre engagement à ce moment-là à mettre ça en pratique dans nos vies. Dieu nous donne ces choses-là. On renouvelle aussi notre engagement à éviter de nous détourner de la vérité et de nous détourner du vrai Dieu. Parce qu'écoutez, même une fois appelé, même une fois baptisé, on reste des agents moraux libres. On a un libre choix encore. Et on peut toujours diminuer de marcher avec Dieu ou aller un peu plus loin, s'éloigner, ou faire des compromis, ou ne pas se presser pour changer les choses, et ainsi de suite. Et là, on devient à risque. Et c'est ça que je veux vous faire réaliser un peu aujourd'hui aussi. Parce qu'en renouvelant notre engagement, on renouvelle en même temps notre engagement à éviter ce que la Bible appelle le péché impardonnable, dont on peut voir la description dans Hébreux 6, versets 4 à 8, et dans Hébreux 10, versets 26 à 30. Hébreux 6, 4 à 8, et Hébreux 10, versets 26 à 30. Et si on est négligent, ou si on vient qu'on prend les choses comme allant de soi, comme si notre appel avait plus ou moins d'importance, et qu'on commence à faire des compromis, à s'éloigner, ou si on laisse un des dangers majeurs nous habiter, l'amertume, à ce moment-là, on peut être amené en dehors du salut de Dieu. Même une fois qu'on a été appelé, il faut en être conscient. C'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui, qu'il faut être conscient qu'on doit vivre dans une attitude de repentance. On ne s'est pas repenti une fois avant le baptême. On continue à vivre avec ça à l'esprit. Et être prudent de ne pas laisser l'amertume jouer en nous. Parce qu'à ce moment-là, ça peut faire que notre cœur s'endurcisse et que notre conscience devienne scellée. On ne voit plus l'importance de se repentir et on en veut à quelqu'un ou on en veut à des groupes de personnes ou on en veut à d'autres tellement que ça omnubile notre jugement et qu'on ne voit plus ce qu'on doit faire et qu'on n'est plus la personne humble et enseignable que Dieu veut qu'on soit. D'où le besoin, comme je mentionne, d'une constante attitude de repentance et d'éviter, comme la Bible mentionne, de négliger un si grand salut. Le prix est tellement grand, ce qui nous attend, la couronne dont parle Paul. Écoutez, de devenir des rois sous le roi des rois pour aider les nations, pour les servir, pour les encourager, pour les guérir, pour leur enseigner les voies de Dieu, pour rebâtir un monde meilleur après les catastrophes qui vont continuer à se produire au cours des prochaines années. C'est un rôle extraordinaire. Une grande bénédiction. Il y a un grand prix d'attacher à ça. Et c'est pour ça que la Bible dit, faites attention de ne pas négliger un si grand salut, la vie éternelle, et de pouvoir servir l'humanité. Quand on renouvelle aussi notre engagement au moment de la Pâque, c'est qu'on s'engage à continuer à vaincre. À vaincre trois adversaires principaux. Vous les connaissez, je pense, vous pourriez les nommer. À vaincre celui que la Bible appelle comme le Dieu de ce siècle, Satan, qui est en arrière de toutes les opérations de la société telle qu'on la connaît actuellement, avec toutes ses violences, ses mensonges, ses cruautés, et ainsi de suite, à vaincre aussi ce monde-là qui nous entoure et qui met beaucoup de pression sur nous pour nous amener à vivre autrement qu'on devrait vivre, et à vaincre aussi notre propre nature humaine à nous autres. Parce que chacun de ceux que Dieu appelle viennent de ce monde-là, sont issus de cette société-là, de cette culture-là. Et c'est pour ça que le Christ répète à plusieurs reprises dans le livre d'Apocalypse, si vous pourrez aller le voir chez vous, Apocalypse chapitre 2 et 3, lorsqu'il décrit les différentes étapes de l'Église au cours de l'histoire, il donne des caractéristiques des Églises, et à chacune des Églises, ça revient constamment à la fin de ce que le Christ mentionne concernant cette étape-là en particulier. Il dit « À celui qui vaincra, voici ce que je vais donner ». Donc, il y a une question de persévérer dans une attitude de victoire sur nos faiblesses humaines jusqu'à la fin. Et c'est bien dit d'ailleurs dans Matthieu 24 que c'est uniquement ceux et celles qui vont persévérer dans cette lutte-là jusqu'à la fin qui vont être sauvés, c'est-à-dire qui vont recevoir la couronne et la vie éternelle. Et ce n'est pas du tout par notre force. Si c'était par notre force, ce serait décourageant, très décourageant. mais ce n'est pas par notre force, c'est par la puissance de Dieu. Vous savez, il y a certains prédicateurs qui s'adressent aux gens de façon flamboyante avec des messages horriblement faux et qui amènent les gens sur des fausses pistes quant à ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a certains prédicateurs, par exemple, qui vont vous dire, « Vous êtes sauvés une fois pour toutes. Vous êtes sauvés une fois pour toutes. Jésus-Christ, en donnant sa vie, a payé l'amende pour vos péchés passés, présents et futurs. » C'est pour ça que certains faux prédicateurs disent, « Vous êtes sauvés une fois pour toutes. » Parce que selon leur logique et non pas la Bible, ils disent, « Le Christ est mort pour vos péchés, donc il est mort pour vos péchés passés, présents et futurs. » Ça sous-entend, vous n'avez plus rien à faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment faux d'être sauvés. Et ces prédicateurs-là vont dire, vous n'avez donc plus besoin de demander à Dieu de vous pardonner vos fautes. Ben non, elles sont pardonnées par le sang du Christ, voyez-vous, selon ce raisonnement faux-là. Mais écoutez, si ça c'était vrai, ce genre de raisonnement-là, faudrait déchirer plusieurs pages de la Bible qui disent le contraire. Aussi simple que ça. Dans 1 Jean 1, verset 9, par exemple, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, si on reconnaît nos fautes, donc, si on admet nos fautes, et si on les confesse à Dieu pour lui demander pardon, parce que c'est à lui qu'on doit demander pardon, et non pas à un homme ou à qui que ce soit, c'est à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'être pardonné. C'est un apôtre du Christ, l'apôtre Jean, qui a été enseigné par le Christ lui-même, qui écrit ces choses-là, et pour nous purifier de toute iniquité. Il va plus loin que ça. Là, il s'adresse au prédicateur que je vous parle. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. C'est fort comme accusation. Donc, quelqu'un qui dit aux autres qu'ils n'ont pas de péché, qu'ils n'ont pas à se repentir, que le Christ a payé une fois pour toutes et qu'il a payé pour les fautes passées, présentes et futures, c'est comme si le Christ avait menti en disant « il faut continuer à vous repentir ». C'est pour ça qu'il dit « ils font du Christ un menteur ». Et sa parole, la parole du Christ, n'est pas en nous si nous disons ça, ou en ces personnes-là qui annoncent un faux évangile. Écoutez, le Christ lui-même, quand il a donné le modèle de prière, celle qu'on appelle le Notre Père dans Matthieu, à un certain moment donné dans la prière, il nous dit de demander à Dieu de nous pardonner nos fautes chaque jour. OK? Donc, c'est un processus qui doit rester avec nous tout au long de notre vie, de continuer de nous repentir. Ce genre de prédication fausse, c'est une fausse théologie qui prétend que Dieu fait tout pour nous à notre place. C'est ça, dans le fond. Que nous, on n'a aucune responsabilité. C'est ça que ça veut dire. Dieu fait tout pour nous. Il a payé l'amende de nos péchés, passé, présent et futur. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes sauvés, réjouissez-vous. Dieu fait tout pour vous et à votre place. Dans le fond, ce que ça fait, ces faux enseignements-là, c'est que ça cache l'aspect du repentir dans notre processus de changement. Non, ceux qui sont appelés, et la Bible est claire là-dessus, ceux qui sont appelés, c'est-à-dire les chrétiens, ont un rôle à jouer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand Dieu appelle quelqu'un actuellement, et il appelle seulement un petit troupeau, comme la Bible dit pour l'instant, et après il va appeler le reste de l'humanité, mais ceux qui sont appelés maintenant, Dieu travaille à créer dans eux quoi? Son caractère parfait. Il leur apprend à penser comme lui, à décider selon sa volonté, à agir selon ses lois. Et ça, plus on le fait, plus on développe le caractère de Dieu en nous. Et c'est un processus, ça ne se fait pas instantanément. M. Armstrong avait l'habitude de dire qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas créer instantanément. Hein? Le caractère parfait dans une personne. Parce que, un, il a donné la liberté de choix à cette personne-là. Alors, il faut que la personne décide d'accepter l'offre de Dieu. Et après ça, il faut qu'elle vive différentes expériences. Et il faut qu'elle mette en pratique, jour après jour, qu'elle développe les lois de Dieu jusqu'à un point tel que ça devient elle-même. Ça devient une telle habitude que c'est un automatisme. Vous savez, c'est une seconde nature. En fait, on devrait dire dans ce cas-là, ça devient notre première nature. Maintenant, ça veut dire ceci, il y a une contrepartie à ça. Ça veut dire qu'on peut aussi risquer de perdre notre salut. Même quand on est appelé, même quand on est baptisé. Allez à 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Ici, vous avez l'apôtre Paul qui parle. Paul savait qu'il pouvait perdre son salut, c'est-à-dire perdre sa vie éternelle. 1 Corinthiens 9 et le verset 26 et 27. Mais moi, c'est Paul qui parle, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc, il se disciplinait lui-même, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est un apôtre de Dieu qui parle. Il dit, moi aussi, il faut que je fasse attention de ne pas être rejeté. Même si j'ai prêché aux autres pendant des années, il faut que moi-même, je m'assure de ne pas négliger un si grand salut. Et je discipline mes pensées, je discipline mes actions, je discipline mon corps. C'est ça que Paul mentionne ici. On peut aller au verset 24, un peu avant. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous pour et qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Bien sûr, nous, on ne court pas contre d'autres personnes. Ce n'est pas une compétition. C'est une compétition avec nous-mêmes, d'une certaine façon, parce qu'on a une couronne à remporter et il faut se montrer digne de l'appel qui nous a été fait, supplier Dieu de nous transformer complètement et maintenir nos objectifs, de discipliner notre corps, d'orienter notre vie selon les volontés de Dieu, pour être là au retour de Christ et être prêt. Et il dit après ça, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences ou de contrôle, dans le sens grec, si vous voulez. Ils font toutes sortes d'exercices pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, nous le faisons. Pourquoi? Pour une couronne incorruptible, beaucoup plus. Alors, il y a une question, donc, d'autodiscipline et de supplier Dieu de nous aider dans ce sens-là. Et c'est intéressant de voir, parce qu'au verset 26, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. » C'est ce que vous avez peut-être dans votre texte biblique. Mais dans le texte original, c'est plutôt « Je ne cours pas avec incertitude. » Voyez-vous? Paul avait l'assurance de terminer la course. On le voit par d'autres versets ailleurs. Paul avait l'assurance de terminer la course. Mais pourquoi? Parce qu'il faisait certaines choses, parce qu'il vivait dans une attitude de repentance, même s'il n'était pas parfait encore. Quand on vit dans cette attitude de repentance, qu'on supplie Dieu chaque jour de nous donner la force de changer, de vaincre telle faiblesse qu'on a ou telle autre faiblesse, Dieu nous aide et à ce moment-là, on se sent proche de lui et on a l'assurance de pouvoir terminer la course. Et ça, ça fait du bien. On a besoin de ça. Autrement, on se regarde et on dit « je ne suis pas capable d'y arriver ». Et c'est vrai, on a raison pour une fois. C'est vrai, on n'est pas capable d'y arriver seul. Mais avec Dieu, on peut y arriver. Paul, même s'il dit ici, il dit « je fais attention, je discipline mon corps, je discipline ma vie, par exemple, pour ne pas être rejeté au bout de la ligne ». Il dit « le risque est là », autrement dit. Mais il dit « je peux avoir l'assurance d'y arriver si je fais ce qu'il faut ». C'est ça la différence. Tant et aussi longtemps que je me discipline avec l'aide de Dieu à suivre ses voies, je peux avoir cette assurance-là. Et c'est pour ça, Paul, à un moment donné, pas longtemps, je pense, avant qu'il meure, on le voit dans 2 Timothée 4 et le verset 8, Paul, il dit, « J'achève ma course et la couronne de justice m'est réservée. » Il avait encore cette assurance-là devant lui, qu'il allait pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, être investi de la vie éternelle. Allez dans 2 Pierre chapitre 1. Un passage ici qui nous encourage beaucoup dans le sens de cette repentance continuelle que nous devons avoir. 2 Pierre chapitre 1. Il y a des promesses de Dieu fantastiques ici. verset 3. Regardez ce que Dieu nous dit. Sa divine puissance nous a donné. Ça nous est donné par sa puissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, Dieu nous rassure ici. Il dit, écoutez, je vous donne tout ce que vous avez besoin pour y arriver. Ne soyez pas inquiets. Faites ce que je vous dis, puis laissez-moi faire le reste. C'est ce que Dieu mentionne ici. Dans le fond, ce qu'il veut savoir, est-ce que je vais être prêt à me soumettre à lui, quelles que soient les circonstances? Est-ce que je vais être prêt à travailler, à ne pas faire de compromis avec ses lois? À toujours vouloir améliorer mon caractère pour que mon caractère devienne comme celui de Dieu. Verset 4. Celles-ci, ces promesses-là, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ce que je vous dis depuis tantôt. Dieu développe en nous son caractère, sa nature, et faisant les choses qu'il nous mentionne ici, on va le voir, nous allons développer, et nous développons effectivement son caractère, mais par sa puissance. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, cette corruption-là, elle est de plus en plus présente autour de nous autres, puis elle nous influence, elle cherche à nous atteindre, et l'adversaire s'en sert. Mais nous, on doit tenir ferme, laisser ça de côté, fuir la corruption. Verset 5, à cause de cela même, il dit, voici qu'est-ce qu'il nous faut faire. Faites tous vos efforts. Ça, c'est ce que nous avons à faire. Les prédicateurs qui prétendent faussement que les gens n'ont rien à faire, qu'ils sont sauvés, c'est encore une preuve que c'est contraire à la vérité de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous croyez en Dieu? Oui, il faut aller plus loin. Et demandez-la parce que même la foi vient de Dieu. Il le mentionne au verset 1, que c'est une foi qu'on reçoit en partage. Joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire la force de caractère, la résolution, la détermination. À cette détermination, la connaissance, et on apprend à connaître Dieu par sa parole et en vivant selon ses lois. Ajouter à la connaissance la maîtrise de soi par la force de Dieu. Et à cette maîtrise, ajouter la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Et regardez le verset 11. Si ces choses sont en vous, juste qu'est-ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de voir, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, regardez bien, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et il ne parle pas aux gens du dehors ici. Parce que quand vous regardez dans Apocalypse 3, le verset 17, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les Laodicéens. Dieu leur dit, vous êtes aveugles. Vous pensez que vous faites ce qui est bien, mais vous négligez. Vous négligez de changer. Vous prenez à la légère l'appel que je vous ai adressé. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est la preuve que ça s'adresse à des gens de l'Église, parce qu'il y a seulement ceux que Dieu appelle et qui sont baptisés, qui voient leur péché être purifié, être lavé. Mais ça revient à la possibilité que Paul évoquait. On peut mettre en oubli la purification de nos anciens péchés et prendre le sacrifice de Christ comme si c'était peu de choses et comme si c'était pas si grave de continuer à vivre dans des façons contraires à la loi de Dieu. Et plus on le fait, plus on s'éloigne, moins on voit le besoin de changer et moins on est capable de changer. Jusqu'au point où, à un moment donné, notre conscience devient comme scellée, comme endurcie, et ça ne nous affecte pas tellement. Et des gens en viennent même, dans ces situations-là, à se comparer à d'autres, ce que la Bible défend de faire, en disant, ben moi, ce que je fais, même si c'est contraire à la loi de Dieu, c'est pas si grave. Parce que j'ai vu un autre ou une autre qui font, selon moi, des choses beaucoup plus graves que celles que je fais. Et là, on se donne bonne confiance, on se justifie de continuer à transgresser les lois de Dieu, mais sans s'en rendre compte, on devient de plus en plus aveugle, comme c'est mentionné ici, et comme c'est mentionné à ceux de l'Église de Laodicée, que Dieu va devoir réveiller d'une autre façon. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais son œuvre, l'œuvre qui a commencé avec vous. Dieu n'abandonnera jamais l'œuvre qui a commencé avec vous et en vous. Vous irez voir Philippiens 1, verset 6. Il y a une promesse là encore formidable. Ça dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est-à-dire la transformation de votre caractère, le changement de votre nature humaine en nature spirituelle, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la rendre parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Alors, il ne vous abandonnera pas, à condition que vous ne vous détourniez pas du Dieu vivant. Vous savez, Dieu a un reproche majeur à faire au groupe des Laodicéens au temps de la fin. Parce que, justement, ils ne sont plus en mesure d'évaluer leur condition spirituelle. Ils se pensent corrects parce qu'ils sont à la bonne place selon eux. Peut-être parce qu'ils observent le sabbat, ils paient leur dîme, ils font un certain nombre de choses. Mais ils ne voient pas leur condition profonde et le besoin urgent de changer toute leur façon de penser et leur façon de vivre. Petit train va loin, ça ne presse pas et on néglige un si grand salut. Est-ce que Dieu haït ces gens-là? Non. Dieu haït ce qu'ils font et nous met en garde pour ne pas tomber dans le même piège. Mais Dieu aime les Laodicéens et ne les abandonnera pas non plus. Il les aime tellement qu'il va permettre que ces gens-là, qui ne se réveillent pas pendant que c'est encore temps, passent par la plus horrible des périodes de l'histoire de l'humanité, la grande détresse. Pas parce qu'il les haït, mais pour les voir entrer dans son royaume, pour les ébranler suffisamment afin qu'ils se repentent finalement, parce qu'ils ont cessé en cours de route de se repentir. Vous savez, Dieu fait tout pour amener chacun de ceux qu'il appelle jusqu'à son royaume. Dieu fait tout. Dieu envoie des corrections, Dieu envoie des bénédictions, Dieu fait réaliser des choses par des événements, et on voit qu'à ce groupe-là, Dieu va permettre de passer par un temps horrible où ils devront vraiment prouver à Dieu qu'ils veulent qu'il soit en premier dans leur vie et qu'ils veulent lui appartenir, quel que soit le coût. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'on a pris au baptême l'engagement de coopérer avec Dieu. C'est Dieu qui fait, il nous donne tout, je vous ai dit ça. Mais nous, il faut coopérer avec Dieu, et ça jusqu'à la fin. Pas juste au moment de notre baptême ou dans les premières années, puis après dire, bon, je suis content de savoir ce que je sais. Non, si je me réjouis seulement de savoir ce que je sais et que je m'en enorgueillis, ça ne donne rien. Paul dit, même si j'ai la connaissance complète de toute la parole de Dieu, si je n'ai pas l'amour vraiment de Dieu, je ne suis rien. Ça, on revient au fondement, là. Non, on a la responsabilité, comme la Bible dit, de croître, et ça c'est un processus jusqu'à la fin de notre vie, dans la grâce, c'est-à-dire dans la miséricorde de Dieu, dans la repentir, c'est ça, croître dans la grâce. Et c'est le repentir constant dont je vous parle, de croître dans la grâce, dans la connaissance de Dieu. Mais c'est une chose dont on doit simplement être reconnaissant à Dieu, de pouvoir le connaître. Est-ce que c'est si important que ça, le repentir? Ou la repentance continue? Je pense que vous commencez à voir un peu plus l'importance de ce que c'est. Mais laissez-moi vous montrer à quel point c'est important. Allez dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, s'il vous plaît. Plusieurs d'entre vous, vous pourriez me dire probablement le contexte de ce passage-là ici. Vous savez, la repentance, c'est le point de départ de notre conversion, avant qu'on soit baptisé, et ça doit continuer par la suite. Mais c'est aussi le début et le point d'ancrage du message d'Évangile que le Christ a donné. Ici, je vous ramène à Marc 1, le verset 14 et 15, où on définit quand le Christ a commencé son ministère d'annoncer l'Évangile, et qu'est-ce que c'est l'Évangile? Verset 14, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. » Bon, et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous faisons. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. » Regardez maintenant ce qu'il disait en détail, la définition. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La première chose dans l'annonce de la bonne nouvelle que le Christ mentionne, c'est justement « Repentez-vous ». Regrettez d'avoir transgressé les lois de Dieu. Soyez attristés d'avoir agi à l'encontre de Dieu, d'avoir amené tout ce mal aussi autour de vous et même dans votre vie. Repentez-vous, ça veut dire regretter d'avoir fait ce qu'on a fait. Et même avant d'annoncer son retour, pour ainsi dire, parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du retour de Christ, l'établissement de son royaume, l'établissement de ses lois sur toute la terre, même avant de parler directement de son retour comme ça, il dit « Repentez-vous, première chose qu'on doit faire. » Et après, croyez à la bonne nouvelle. Voyez-vous l'importance? Quand je vous dis, est-ce que c'est si important que ça, le repentir? Oui, c'est la base du message de l'Évangile. Dans Marc 2, verset 17, juste un peu plus loin, c'est écrit, c'est le Christ qui parle, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et la Bible nous montre que tous ont péché. Des pécheurs à la repentance. Dans le texte original, c'est ce qui est marqué. « Je ne suis pas venu pour apporter des justes, mais des pécheurs à la repentance. » On trouve ça dans la version du roi Jacques. Écoutez, nous, en tant qu'Église actuellement, qu'est-ce qu'on fait sur Internet, à la télévision, dans nos publications? On appelle les gens à quoi? À la repentance. On leur annonce qu'il y a un nouveau monde qui s'en vient après la venue du Christ, mais on leur annonce de se repentir. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On fait la même chose que le Christ a fait. J'ai regardé hier, en préparant ce message-là, dans la brochure qui a été publiée par l'Église et qui a été produite par M. Meredith et qui s'appelle « Qui contrôle le temps? ». Et regardez dans cette brochure-là encore là comment M. Meredith appelle les gens de la société autour à réaliser ce qui se passe, à réaliser qu'il existe un Dieu réel et qu'il est en train d'intervenir de façon de plus en plus magistrale sur la face de la terre pour manifester sa présence et amener les gens au repentir. Je vous cite la page 7, une partie de la page 7 de sa brochure. Il dit, « Nous verrons de plus en plus des tragédies humaines, pires que celles de l'ouragan de Galveston en 1900, où 8000 personnes ont péri d'après les estimations. Alors que nos péchés nationaux augmentent, la parole de Dieu nous dit que sa colère augmentera également. » Et c'est ce que nous voyons autour de nous actuellement dans les phénomènes météorologiques inhabituels qui se produisent et qui amènent des catastrophes et des cataclysmes de plus en plus grands. Pouvons-nous nous irriter contre Dieu ou dire qu'il est cruel lorsqu'il intervient de cette façon pour attirer notre attention? C'est pour ça qu'il le fait, c'est pour attirer notre attention. Est-ce parce qu'il nous hait que Dieu provoque ou permet ces désastres? Au contraire. Dieu veut nous réveiller pour notre propre bien. C'est parce qu'il nous aime. Il agit par amour. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit clairement, à Apocalypse 3, verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et donc, du zèle, et quoi? Repens-toi. Encore cette question de repentir, qui veut dire changer. Changez vos voies humaines mauvaises pour vivre selon les lois que je vous montre dans ma parole. M. Meredith continue en disant, « Dieu veut que nous nous souvenions de lui. » Et à la page 4, il ajoute ceci, « Dieu est en train de nous châtier par diverses catastrophes naturelles. À partir du moment où nos péchés personnels et nationaux augmentent, les inondations, les tornades, les violentes tempêtes de neige et les séismes augmenteront aussi. Ce que des gens appellent aujourd'hui des cas de force majeure, sont précisément la manifestation de l'intervention du Tout-Puissant sur la face de la terre. Et ce n'est que le commencement. Les catastrophes naturelles, iront en empirant, à moins que nous nous repentions. » Et vous, M. Meredith, reviens avec ça. Et c'est un appel à nos nations de se repentir, et bien sûr individuellement. En tant que nation, à nous repentir en nous tournant de tout cœur vers Dieu pour lui obéir. On ne peut pas être plus clair. Alors, le même message que le Christ a donné, nous, en tant que ses serviteurs, nous avons la responsabilité de le donner jusqu'au bout. Vous voulez une bonne mesure pour évaluer votre degré de conversion? C'est votre attitude par rapport aux lois de Dieu. Ça en est une. Quelle est votre attitude par rapport aux lois de Dieu? Est-ce qu'il y en a que vous aimez mieux pas regarder? Parce que vous ne voulez pas changer telle chose de votre vie, vous dites, oh, c'est pas si important cette loi-là. Quelle est votre attitude? Est-ce que chaque parole de Dieu, parce que la Bible dit, vous devez vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, est-ce qu'il y a certaines paroles dans la loi de Dieu que vous aimez mieux pas voir, que vous regardez ailleurs plutôt, ou vous passez ce paragraphe-là un peu plus vite, parce que vous ne voulez pas changer telle chose dans votre vie, ou que ça ne presse pas pour changer? Évaluez-vous vous-même. Moi, j'ai à le faire aussi en tant qu'être humain, comme Paul avait à le faire aussi. Parce qu'écoutez, on est des êtres humains. Et quand vous allez voir dans Romains 8, verset 7, ce que Paul dit, il dit ceci, « L'affection de la chair, c'est-à-dire nos pensées humaines, notre justice humaine, notre nature humaine, c'est ça l'affection de la chair, ce que la chair aime. L'affection de la chair, elle est quoi? Inimitié contre Dieu. Elle est ennemie de Dieu, en partant. Alors, il y a du ressentiment envers Dieu parce qu'on ne veut pas voir ses lois. Au point de départ, tous les êtres humains ont cette réaction-là. Ah, Dieu ne peut pas me demander telle chose pour telle ou telle raison. Dieu ne pourrait pas demander ça. Dieu est un Dieu d'amour, c'est trop, ainsi de suite. La repentance, vous savez, c'est plus que la prise de conscience intellectuelle du péché. Je reviens à la dernière phrase de Romains 8, verset 7, parce que j'ai passé outre, mais elle est importante. Il dit « L'affection de la chair, elle est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu au point de départ. Et si Dieu n'appelle pas une personne, la personne ne s'y soumet pas et ne veut même pas s'y soumettre. Et qu'elle ne le peut même pas. » Ça, ce petit bout-là est important. La nature humaine, notre nature humaine, elle ne peut pas. Une fois qu'on sait ça, mais qu'on voit dans la Bible les autres passages qui nous montrent comment ceux que Dieu appelle peuvent arriver à vaincre, on est encouragé. Parce qu'à ce moment-là, on peut avoir d'ailleurs, de la part de Dieu, la force nécessaire. Paul dit, c'est dans 1 Corinthiens, je pense, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est ça. De moi-même, je ne peux rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, je reviens à ça. La repentance, c'est plus qu'un exercice intellectuel pour identifier le péché. Ça, c'est facile. On peut regarder les 10 commandements. On dit, voici, bon, tel commandement dit, tu ne mentiras pas. Si j'ai menti, je sais que j'ai transgressé la loi. Ça, c'est une connaissance intellectuelle de la loi de Dieu. Non, la vraie repentance va plus loin. Elle engendre une profonde tristesse d'avoir péché. Il y a une tristesse qui vient avec ça, on doit réaliser. Et si on a de la misère à l'avoir, on peut la demander à Dieu. La vraie repentance engendre une profonde tristesse. Il y a une dame dans la Bible qui en est un bel exemple, et vous allez trouver ça en allant voir vous-même dans Luc, chapitre 7 et le verset 38. Vous savez, le Christ était entré manger chez une de ses connaissances, et tout à coup, il est entré une femme qui était une prostituée à l'époque, qui avait beaucoup de péchés, comme chacun d'entre nous ont beaucoup de péchés à se faire pardonner de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame-là? Elle avait conscience d'avoir transgressé les lois de Dieu. Elle réalisait que l'homme qui était devant elle, c'était le Christ. Et cette femme-là est venue laver les pieds du Christ avec un parfum très cher qu'elle avait acheté. Et en lui lavant les pieds, elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle réalisait la gravité de ses fautes. Question. Maintenant, je vois plus loin. Et nous aussi, on doit réaliser la gravité de nos fautes. Allez à Marc, chapitre 6. On était dans Marc 1. Allez à Marc, chapitre 6, s'il vous plaît. Vous savez, le Christ a envoyé ses disciples. Après qu'il a eu choisi ses 12 apôtres, il les a envoyés prêcher l'Évangile. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Je reviens là-dessus pour vous montrer l'importance de la repentance. Marc 6 et le verset 7. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux. À ce moment-là, c'était comme ça, ça a été changé par après, en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs et ainsi de suite. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 12. En suivant la directive d'aller faire un certain travail, ils partirent et ils prêchèrent quoi? La repentance. Vous savez encore, parce que c'est l'élément clé de notre démarche de conversion vers le salut, vers le fait que la vie éternelle nous sera accordée ou non. Et ça a été la même chose à la Pentecôte, quand vous regardez ce que Pierre a mentionné, acte 2, allez à acte 2. Lors de la première Pentecôte, les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, après ça, ils sont sortis à l'extérieur, et là, Paul a fait un discours magistral, vous savez ce qui s'est passé. Acte 2, verset 38, et qu'est-ce qu'il a dit aux gens à ce moment-là? La première chose qu'il leur a dit, « Repentez-vous! » Encore le repentir. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour voir vos péchés pardonnés et pour recevoir le Saint-Esprit. C'est seulement à cette condition-là, après, qu'on peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et juste un peu plus loin, acte 3, verset 19, Pierre continue en ces termes et il répète, « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Alors, se repentir, c'est regretter ces péchés-là, justement, et vouloir changer pour que ce soit effacé. Allez à Hébreux maintenant, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6. Alors, comme on l'a vu, la repentance, apporte beaucoup de joie dans la salle du trône de Dieu. Pour Dieu, pour son Fils, pour les anges qui sont là autour. Et la repentance constitue une partie majeure du message de l'Évangile. On vient de le voir aussi. Et c'est pas pour rien, à ce moment-là, j'arrive au troisième point, dans le fond, c'est que la repentance, c'est aussi une doctrine de base des doctrines de l'Église. Tout ça se tient, tout ça va ensemble exactement. C'est le fondement des doctrines de l'Église. Hébreux 6 et le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ça, c'est notre objectif, devenir parfait comme le Père est parfait, revêtir la stature de Christ. Sans poser de nouveau le fondement. Bon, il commence à énumérer maintenant 6 points du fondement des doctrines de l'Église. Sans de nouveau poser le fondement. Et c'est quoi le premier? Du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est la repentance encore. C'est une autre façon de le dire. Renoncer aux œuvres mortes, c'est se repentir des actions qui nous ont amené la peine de mort éternelle sur nous. C'est ça, de renoncer aux œuvres qui nous amènent à la mort. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est le repentir, c'est le début de l'Évangile, c'est le début de notre démarche chrétienne. Se repentir des œuvres, donc, qui ont amené sur nous la sentence de mort éternelle. Alors, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit être de plus en plus conforme aux lois de Dieu et à ses voies. C'est ça notre mandat. Et c'est ça qu'on a accepté le jour de notre baptême. Quand on a vu dans Luc le passage qui nous dit qu'on a mis Dieu en premier, en avant de toutes choses dans notre vie, même de notre propre existence, c'est qu'à ce moment-là, on s'est consacré, on s'est soumis totalement à Dieu pour faire sa volonté. Et plus on vit selon ses lois, plus on vit selon ses voies, plus on ajoute graduellement le caractère divin en nous. C'est ça, développer le caractère de Dieu. Et c'est ça le fait que c'est un processus. J'ai vu une bonne définition, c'est pas la seule, mais j'ai vu une bonne définition de la repentance dans un dictionnaire biblique qui est le Unger's Bible Dictionary. Et je vous traduis une partie de cette définition-là de la repentance que le dictionnaire donne. Il dit « Repentance vient du mot grec « métanoïa », qui signifie « changement de mentalité, changement de pensée ». Mais vous, ça commence à l'intérieur. Écoutez, nos actions, c'est seulement le fruit de ce qu'on pense, tout simplement. Alors, c'est pour ça que le changement doit d'abord être un changement de cœur. Alors, la repentance vient du mot grec « métanoïa », qui signifie « changement de mentalité, changement de pensée ». Avant que Dieu appelle ses serviteurs, avant que Dieu nous appelle dans le passé, on pensait tous égoïstement. Et on se faisait peut-être compétition à qui serait le plus égoïste entre nous, sans le savoir. C'était un peu comme ça, c'est la nature humaine. On vivait égoïstement, mais à partir du fait qu'on a été appelé de réaliser quelles sont les voies de Dieu, la bonté de Dieu, l'humilité de Christ, le désir de servir, là, on a commencé à changer. Ça s'appelle la conversion. Quand on se convertit d'une chose à une autre, c'est qu'on change. On a commencé à penser différemment. On a commencé à penser plus aux autres. Et on a encore à développer ça davantage. On a commencé à penser plus aux autres qu'à nous-mêmes. Ça, c'est la conversion. On a tenu compte des besoins des autres, pas seulement des nôtres. Et on a appris graduellement, et on est encore en train de l'apprendre, la voie de donner aux autres. La repentance, c'est un changement profond de cœur dans l'homme, où l'homme se détourne du péché et se tourne vers Dieu. Fin de la citation. Alors, c'est intéressant parce que ça donne un bon éclairage sur ce qu'est la repentance. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple pratique. Ça peut s'appliquer à toutes nos fautes. Mais je prends un exemple. Pour vous montrer en même temps qu'il y a des étapes dans la repentance. Puis c'est bon qu'on en soit conscient. Ça nous aide dans notre démarche. Il y a des étapes dans la repentance. Prenez l'exemple du fumage. Une personne fume. Elle voit son médecin. Le médecin lui dit, écoutez, monsieur ou madame, si vous ne cessez pas de fumer, vous allez mourir. OK? Laissez-moi vous dire que c'est une bonne motivation. C'est un élément motivateur important, intéressant. Oui? Et ça a aidé plusieurs personnes dans le passé. Ça a aidé plusieurs personnes. Vous savez, la peur, parfois, c'est un bon point de départ pour changer. Oui, Dieu le sait aussi. Et Dieu utilise ça aussi par rapport à nous. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à découvrir dans la Bible le plan de Dieu, et que j'ai vu que le Christ allait revenir, mais que juste avant son retour, il allait y avoir une période de grande détresse comme jamais il y en avait eu sur la face de la terre, et qu'il allait y avoir des horreurs comme c'est pas possible à cause de la méchanceté de l'homme, ça m'a fait peur. Oui, ça m'a fait peur. Mais en même temps, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me réveiller, ça m'a ébranlé. Mais vous, Dieu se sert de ces choses-là. Il va faire la même chose avec les gens bientôt. Lorsque les événements majeurs vont frapper, il y a des gens qui vont se poser des questions. Ils vont dire, il y a peut-être un être qui maîtrise tout ça et qui est en charge et vers lequel je peux me tourner pour avoir l'aide nécessaire. Alors, ça m'a aidé. Il a eu mon attention. Il a attiré mon attention correcte. Et cesser de fumer, c'est la même chose. Si vous ne cessez pas de fumer, vous allez mourir. Bon, maintenant, si la personne arrête de fumer, est-ce qu'elle s'est repentie? Ah! Elle ne s'est pas repentie selon Dieu. Elle a arrêté de fumer. Elle avait peur de mourir, elle a arrêté de fumer. Mais ce n'est pas de repentir selon Dieu. Pas du tout. Elle avait peur ou elle avait peur de mourir. C'est une première motivation qui peut aider, dans certains cas, à aller plus loin. Mais s'il y a juste ça, ça ne... Ben, Dieu aime mieux voir quelqu'un qui ne fume pas que quelqu'un qui fume, c'est sûr. Mais ce n'est pas un repentir selon lui, selon Dieu. Il y a un deuxième pas qui doit être fait. C'est que le fumeur qui est appelé à connaître les lois de Dieu, ou est appelé à faire partie de la famille de Dieu en ce moment, doit en venir ensuite à se rendre compte que le fait de fumer, c'est une transgression des lois de Dieu. Alors là, ça, c'est le deuxième pas, voyez-vous. Le premier pas, il a eu la peur, là. Après ça, il dit, oui, mais je vois dans certaines choses dans la loi de Dieu que si je continue à fumer, je transgresse les lois de Dieu. Et si je continue à transgresser les lois de Dieu et que je ne change pas, on connaît les résultats. Il n'y a pas de petite et de grande faute. Hein? C'est un tout avec Dieu. Alors, la personne réalise que c'est une transgression des lois de Dieu de plusieurs façons. Et je me rappelle quand je suis venu à l'Église, quand j'ai dû affronter cette difficulté d'arrêter de fumer, c'était pas facile, mais il fallait. Je me disais, si je veux obéir à Dieu, j'ai pas le choix. Alors, j'ai pris les grands moyens à ce moment-là pour arrêter, et ça a été possible. Ce que je croyais pas possible, mais c'est pas par notre force, je reviens à ça, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, ça transgresse les lois de Dieu de plusieurs façons. Quand on s'arrête à y penser comme il faut, ça transgresse le 10e commandement, ce qu'on ne voitera pas. Quelque chose qu'on ne doit pas avoir, mais qu'on veut avoir. C'est la même chose pour la drogue, que ce soit la marijuana ou le crack ou quoi que ce soit. C'est le même principe. C'est convoiter quelque chose qu'on ne doit pas avoir. Alors, c'est la transgression du 10e commandement. C'est aussi la transgression du commandement sur l'idolâtrie, si vous y pensez comme il faut. Parce que la personne met entre elle et Dieu un tout petit Dieu qui boucane. Oui, tout simplement. Tout simplement, c'est ça. Et c'est tellement vrai que c'est difficile d'arrêter. Quand il parle d'être esclave de la cigarette ou esclave de la drogue et tout ça, c'est parce que ce Dieu-là nous contrôle. C'est pas nous qui le contrôlons. OK? C'est la même chose pour les autres choses, trop manger, trop boire, ou enfin, ces choses-là aussi. Mais c'est une idolâtrie lorsque c'est au-delà, lorsque ça devient un écran entre Dieu et nous. Allez à 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Donc, je vous dis, c'est la même chose pour chacun des péchés, chacune des transgressions des lois de Dieu. 1 Corinthiens 6. La personne a eu peur de mourir. La personne a réalisé, comme ça a été mon cas dans le passé, que c'était une transgression des lois de Dieu et qu'il fallait que je change. Alors, j'ai supplié d'avoir son aide parce qu'on voit que ça transgresse plusieurs de ses commandements. Et on voit ici à 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, que cette mauvaise habitude-là souille le corps et détruit le corps. Les médecins vont vous le dire très facilement. 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Lorsque vous êtes baptisé, où Dieu met-il son Saint-Esprit? Dans vous. À ce moment-là, vous devenez ce qui contient le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Il vous a donné ce qu'il y a de plus précieux. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors, je réalise à ce moment-là que je ne peux pas souiller le temple du Saint-Esprit. Alors, voyez-vous, ça semble anodin au point de départ, mais quand on analyse la chose, on voit que c'est une transgression d'une grande partie des lois de Dieu, sinon toutes. En plus que la Bible nous dit que lorsqu'on brise un des commandements et qu'on continue à vivre selon ça, on brise toute sa loi. Ça me laisse où? Je suis coupable et je ne suis pas en train de me repentir. Et si je ne suis pas en train de me repentir, il y a des conséquences. Il faut en arriver, dans le fond, à avoir une répugnance du péché. Mais est-ce que c'est ça la repentance totale? Non. Ah là, je vous surprends un petit peu. Non, ce n'est pas la repentance totale. On va un peu plus loin. C'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui, pour qu'on voit de quoi il s'agit. C'est une bonne direction, mais ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas par notre force, rappelez-vous. On a besoin de savoir comment ça marche, d'avoir la force de Dieu, puis de faire les étapes. Puis à ce moment-là, on est en train de le faire, on a l'assurance de se rendre au bout, comme Paul mentionnait. Il y a un niveau plus profond de repentance. Allez à Psaume 51. Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51. Ici, on parle d'un niveau de repentance plus profond. C'est de réaliser ce niveau plus profond-là, là, c'est de réaliser que tout péché que l'on commet, c'est contre Dieu. Il y a une autre dimension, là. C'est contre Dieu. C'est une offense à Dieu et c'est une opposition que l'on met devant Dieu. On s'oppose à Dieu. On l'offense directement. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire des changements majeurs et parfois drastiques dans leur vie. Vous en connaissez? On en entend parler régulièrement. Il y a certaines actrices, par exemple, qui vont perdre énormément de poids dans des diètes horribles, affreuses, pour être filiformes puis être capables de remplir tel rôle ou être capables de devenir mannequins. Certains en meurent même. Ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais ils ont la détermination, la volonté humaine. Dieu a mis dans l'être humain une liberté de choix puis a mis une capacité d'avoir de la volonté. Mais la volonté humaine, ce n'est pas la puissance de Dieu. On peut réaliser un certain nombre de choses par la volonté humaine, parfois très éclatantes, qui impressionnent. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu et ce n'est pas la repentance. C'est notre volonté humaine. Une personne appelée par Dieu doit d'abord voir son besoin de changer. Ça peut être par peur de mourir, comme pour le tabac. Et deuxièmement, en venir à voir ses fautes comme répugnantes. Et troisièmement, réaliser que le péché, c'est contre Dieu. Psaume 51, verset 3. On sait ici que David avait, un, fait tuer le mari de Bathsheba. Il était coupable de meurtre. Et deuxièmement, il avait commis l'adultère avec Bathsheba. Adultère, deuxième transgression. Et regardez l'approche de David. Ô Dieu, verset 3, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. Et tant qu'on n'a pas eu la miséricorde de Dieu, notre péché, il est sur nous à ce moment-là. David savait que son meurtre et son adultère, c'était des transgressions des lois de Dieu. C'est ça que je veux dire, là. Et regardez, il le mentionne directement au verset 6. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul. Pourtant, il avait fait du mal à d'autres autour, oui, mais le péché en tant que tel, c'était contre Dieu, en opposition aux lois de Dieu. C'est ça que ça voulait dire. Il réalisait l'autre dimension que je vous explique maintenant, où on doit aller plus loin et réaliser que chacune de nos fautes sont une offense directement faite à Dieu. David était conscient du fait qu'il avait péché contre Dieu. Plusieurs voient le besoin de changer. Plusieurs regrettent leurs fautes et les trouvent répugnantes, mais ne réalisent pas que c'est contre Dieu, le législateur, qu'ils ont mal agi. Et ça, on a besoin de le réaliser, que c'est contre celui qui nous a donné les lois et celui qui nous a donné la vie que nous avons mal agi. Lorsqu'on arrive à ce stade, là, on est frappé de réaliser qu'on est sous l'amende de la mort. Et que si on ne se repent pas vraiment, avec l'aide de Dieu, qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle. Parce qu'on a craché au visage de Dieu et qu'on a craché au visage de Jésus-Christ, et qu'on est sous la pénalité de la mort. Mais grâce à Dieu, il y a de l'espoir. Grâce à Dieu, il y a de l'espoir. Acte 2, s'il vous plaît. Revenez dans Acte 2. Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. On voit ça dans les psaumes, il répète ça souvent. Parce qu'on a besoin d'être encouragé souvent là-dessus. On n'est pas parfait d'un coup. Il y a de l'espoir que Dieu nous accorde, parce que Dieu nous donne la repentance. Demandons-lui. Il y a une autre étape sur la route de la repentance. Dans Psaume 51, si vous remarquez, David n'a pas demandé à Dieu d'avoir justice. Si David avait dit à Dieu, « Donne-moi justice, fais-moi justice », il serait mort sur le champ parce qu'il était sous la menthe de ses péchés. Il n'a pas demandé justice, hein? Il a demandé d'être pardonné. Il a demandé d'avoir miséricorde. Il dit, « Aie pitié de moi dans ta miséricorde, lave-moi de mon iniquité. » Il faut réaliser comme lui que nous sommes coupables. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à plusieurs Israélites dans le cas de la première Pentecôte, quand Pierre a fait ce sermon aussi puissant. Ils ont réalisé qu'ils étaient coupables. Acte 2, verset 36, que Pierre dit ici, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, et il leur parlait là, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Qu'est-ce qui s'est passé après? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ont dit aux apôtres, « Qu'est-ce qu'on doit faire? » Ils ont compris qu'ils étaient responsables de la mort du Christ. Et nous, on doit comprendre la même chose individuellement, parce que individuellement, nous avons tous joué un rôle majeur dans la mort du Christ. Et si nous avions été la seule personne sur la face de la terre à n'avoir jamais existé, le Christ aurait dû venir de la même façon et mourir aussi pour nous individuellement. Alors, ils ont demandé à ce moment-là la même chose que nous, on doit demander. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a des choses à faire? Oui. C'est ce que Dieu nous montre. Par notre force? Non. Par la force de Dieu. Et c'est là qu'est l'encouragement. Après qu'on réalise qu'on a péché contre Dieu, on sait plus profondément ce que nous méritons, la mort éternelle. Mais là, on peut compter sur le grand Dieu qui nous dit dans Romains 2. Regardez Romains 2, un passage tellement encourageant. Romains 2 et le verset 24, où Paul dit, « Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Alors, il faut le reconnaître, ça. Dieu nous garde la vie encore pour que nous continuions à nous repentir. Et Dieu est bon et Dieu est patient. Plutôt que de nous traiter avec justice, il nous traite avec patience et avec miséricorde. Toujours dans l'espoir que nous allons profiter de ça pour changer. Ça, c'était dans Romains 2 et le verset 4. Et quand on réalise ça, ça a eu un impact profond sur nous et on apprécie davantage l'amour que le Christ a pour nous et que Dieu a pour nous. Vous pourrez aller voir dans 2 Pierre 3, verset 9, Pierre parle de la même façon en disant que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses et du retour de Christ. Mais il souhaite que personne ne perde son salut. OK? C'est sûr qu'à un moment donné, il va tracer la ligne. Et si on n'est pas prêt, Dieu n'attendra pas parce que certains n'ont pas voulu se préparer à temps. Non. Mais il dit que Dieu a une grande patience et une grande bonté. En plus, rapidement, je vous donne ça en passant, c'est que la repentance, ce n'est pas la pénitence. Certains d'entre vous, vous venez de grandes religions du monde qui enseignaient la pénitence. Vous alliez à la confesse et là, vous reconnaissiez vos fautes. Et puis là, habituellement, celui qui vous confessait vous donnait une pénitence. Ça pouvait être de dire un certain nombre de prières répétées à la suite, ou de faire un chemin de croix, ou de faire des bonnes œuvres, et ainsi de suite. Mais il n'était pas question que vous changiez, ou que vous changiez de cœur, ou que vous changiez de pensée. Vous faisiez ça, c'était un peu comme pour payer pour vos péchés. Mais à mon sens, c'est une insulte à la grandeur du sacrifice de Christ, qui n'a pas besoin d'autre chose pour compléter la valeur de ce sacrifice-là, qui est capable seulement par son sang versé, de laver nos fautes. Il n'y a pas besoin que je paye une amende pour compléter son sacrifice, comme pour payer pour moi-même. Rapidement, on se repent de quoi? Un, on se repent du péché, qui est la transgression des lois de Dieu, comme on voit dans 1 Jean 3, verset 4. On se repent du péché dans sa dimension spirituelle, comme le Christ nous a montré dans Matthieu 5 à 7, ces chapitres-là. Non seulement on doit cesser, par exemple, de commettre l'adultère physiquement, mais on doit cesser de commettre l'adultère avec nos yeux. Quand on regarde des choses qui nous amènent à penser à l'adultère ou qui vont dans cette direction-là, on doit cesser de commettre l'adultère avec nos oreilles en écoutant des choses qui vont dans ce sens-là aussi ou qui font partie de ça. Et dans nos pensées, qu'on doit éliminer les pensées. Lorsque cette pensée-là vient, qu'on la rejette, on demande l'aide de Dieu. Et c'est ça, de vivre selon la loi, dans sa lettre et dans son esprit, dans la dimension magnifiée de la loi. On se repent aussi des omissions. Dans Jean 4, verset 17, il est écrit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Quand j'ai la chance d'aider quelqu'un, si je décide de ne pas le faire, si je me détourne de mon semblable, autrement dit, je commets un péché. C'est ce que la Bible nous mentionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre nos biens demain matin et partir pour essayer. Ce n'est pas ça, là. C'est que lorsque l'occasion se présente autour de nous, dans nos vies courantes, ce qu'on peut faire de bien, faisons-le. C'est ce que la Bible nous montre. Si on ne le fait pas, on est tenu responsable de ça. Une chose très importante aussi, Romains 7, juste un peu plus loin, Romains 7. Et là, c'est Paul qui parle encore. C'est que nous devons nous repentir non seulement de ce que nous avons fait ou de ce que nous faisons, mais nous devons nous repentir de ce que nous sommes. Ça, c'est beaucoup plus, là. Nous repentir de ce que nous sommes. Et c'est Paul qui parle ici, après avoir décrit les combats qu'il avait dans sa chair. Vous lirez vous-même tout le chapitre 7 du livre de Romains, où il dit, « Je vois dans ma chair un autre loi qui combat contre la loi de mon entendement. » C'est-à-dire qu'il connaît la loi de Dieu, mais des fois, il se trompe, il manque son coup et tout ça. Il dit, il y a de la misère, mais c'est par Dieu, grâce à Dieu, qu'il peut y arriver. On le voit plus loin, mais le combat est réel, comme pour nous. Les combats sont réels, mais on doit être conscient qu'ils sont là, compter sur Dieu, puis faire du progrès avec la puissance de Dieu ici. Mais suite à la description de ses combats personnels, Paul, pour vaincre les choses dans sa vie, regardez comment il se considère face à Dieu. Verset 24. « Misérable que je suis. » Misérable que je suis. Et oui, il dit, c'est ce qu'il est. C'est ma nature. Et je regrette, je me repens de ce que je suis. M. Armstrong parlait un peu dans ces termes-là. Ceux qui ont lu son autobiographie, quand il parle du moment de sa conversion au début, où il a réalisé qu'il avait causé la mort de Christ, le mal qu'il avait fait, toutes les transgressions de la loi, ce qui avait changé dans sa vie, il dit qu'il s'est vu comme un tas de rebuts. Il dit, je me suis vu même comme un âne égoïste. C'est les mots qu'il a employés. Alors ça, c'est de s'humilier devant Dieu, de reconnaître qu'on n'est rien, mais qu'on est coupable et qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu. Puis à ce moment-là, on peut l'apprécier. Mais on se repent de ce qu'on est. Parce que notre nature humaine, qui fait tantôt le bien, tantôt le mal, et là, c'est trompeur pour nous autres, parce que tantôt, on a des aptitudes naturelles à faire le bien, puis on a des bonnes naturelles à faire le mal aussi, là. Les deux. Mais notre nature humaine, c'est ce que nous sommes. Nous sommes nature humaine. Et là, on est dans le processus de remplacer cette nature humaine-là par la nature de Dieu. Alors, il faut demander à Dieu qu'il nous fasse voir nos fautes. David a demandé ça à Dieu, de lui faire connaître ses fautes. Faisons la même chose. N'ayons pas peur, soyons prêts à recevoir la réponse, par contre. Demandons à Dieu de nous montrer, de nous voir tels que nous sommes. Il y a un point important aussi ici. Si vous et moi, on ne connaît pas notre nature humaine, comment est-ce qu'on peut être en train de la vaincre? Pour ça qu'on a besoin de demander à Dieu de nous la montrer. Et même d'être attentif aux réactions de ceux autour de nous. Quand on voit qu'il y a des réactions, que les gens nous fuient ou qu'à certains moments donnés, quand je dis des choses ou que la façon que je fais les choses, les gens réagissent négativement, bien, posons-nous la question. Il y a quelque chose que je fais qui crée ça, là. Alors ça, c'est en moi. C'est à moi à m'analyser. Voyez-vous? Ou si quelqu'un vient vers moi et dit, bien, écoute, quand tu dis ou quand tu fais telle chose ou quand vous faites telle chose, ça me blesse ou tout ça. Si la réaction, ah, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, c'est pas ça que j'ai fait, il y avait un autre qui m'a poussé, il y a plein d'autres. Est-ce que je suis en train d'observer les lois de Dieu, puis d'avoir l'humilité d'être enseignable, puis de reconnaître mes fautes? Non. Non. Je me défends. Je vois pas ma condition spirituelle, puis je veux pas l'avoir. Je veux pas l'avoir. Mais si je veux pas l'avoir, il y a un prix à payer aussi. Ça revient à tout ça. Il ne faut pas oublier, comme dans Jérémie 17, verset 9, qui est écrit, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » Qui peut le connaître? Même nous autres, on a de la misère à connaître notre propre cœur. On se pense bon, des fois. Et des fois, on est obligé de passer par certaines épreuves pour réaliser qu'on n'est pas si bon que ça. Alors, chaque jour, on doit vivre dans une attitude de repentance. Et le sang du Christ va continuer à nous purifier. Seulement si nous continuons de nous repentir. C'est un processus quotidien. Une autre chose de laquelle on doit se repentir, c'est de la propre justice. Une autre chose de laquelle on doit se repentir, la dangereuse loi de la moyenne. Dans le sens que si je réussis à mettre en pratique un certain nombre des lois de Dieu, ça me donne une espèce de réconfort à ma nature humaine en disant, bien, je suis bon. J'en fais déjà une bonne partie. L'autre partie, ça, c'est pas... Mais j'en fais déjà une bonne partie. Comme quand on était à l'école, vous savez, il fallait avoir 60 % pour passer un examen. Il y en a qui se contentaient d'avoir 60,2. Et puis là, il y avait passé. D'autres qui disaient, on va y aller au maximum pour avoir le maximum. Et en faisant ça, ils se préparaient pour leur fonction future dans leur travail. Les autres étaient négligents, voyez-vous. À nous, il faut faire attention aussi de ne pas dire, bien, je fais un certain nombre de choses, donc je suis correct aux yeux de Dieu. Attention aussi de ne pas condamner les autres ou de ne pas, en anglais on dit micromanage, ou de ne pas contrôler les autres dans tous les détails. Vous savez, les gens ont leur vie à vivre. C'est pas à moi de dire à mon épouse comment faire les choses à la maison ou tout ça. On peut en parler des fois, mais il y a plus qu'une façon de faire les choses. J'ai pas d'affaire à être sur son dos et dire, bien, tu devrais faire ça comme moi, je pense que ça devrait être fait. Là, je juge, je condamne et je critique, surtout dans des domaines où c'est même pas mon affaire. C'est assez sérieux et souvent les couples ont des problèmes à cause de ça parce qu'un ou l'autre, ou des fois les deux, se picarent joyeusement comme ça en disant à l'autre, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça à telle vitesse et de telle façon parce que moi, j'ai pensé que c'était comme ça. Ça, c'est de contrôler les autres et ça ne doit pas être fait. On doit se convertir nous-mêmes, on doit se corriger nous-mêmes. Laissez-moi vous donner une petite lettre d'une personne qui a écrit à M. Ames, j'ai trouvé ça superbe, une jeune femme, qui a réalisé que la repentance doit être quelque chose de continuel. Et un peu comme Paul, qui a eu peur d'être rejeté à un moment donné. Elle dit, « Cher M. Ames, je vous écris en toute humilité. Tellement de choses se sont passées depuis notre dernière rencontre. » M. Ames avait été son pasteur dans une église locale. « Après avoir quitté le Texas, j'ai gardé une bonne attitude durant un certain temps. » Mais je n'ai pas fait ce que vous m'aviez dit de faire. Il a suffi que je ne prie pas une journée pour que le lendemain, ça soit plus facile de ne pas prier. Puis, peu de temps après, j'ai cessé d'étudier ma Bible graduellement. Et ensuite, j'ai commencé à faire des choses que je savais être mauvaises, comme manger du porc, transgresser le sabbat, et ainsi de suite. Les choses ont été de mal en pis pour moi. J'ai été sans travail durant 7 mois, et je sais pourquoi. Je vis avec une jeune famille, des parents à moi. Ils se sont querellés pratiquement chaque soir depuis que je suis ici. Il y a 2 semaines, la situation a empiré. Puis je me suis vu, réellement. J'ai pensé avec rectitude, je pense, pour la première fois. Je savais que je ne pouvais pas continuer dans la voie que j'avais empruntée, car je me dirigeais vers l'étang de feu. Je désirais changer, mais je n'avais pas le courage de combattre pour les choses que je savais être justes. Et je savais que je ne pouvais pas y arriver de moi-même. J'ai jeûné 2 jours, mais je ne me suis pas mis à genoux. Vous savez, c'est moi qui fais un aparté ici, plus longtemps vous vous éloignez de Dieu et plus longtemps vous cessez de vous soumettre à lui, et plus c'est difficile de revenir. Plus c'est difficile de revenir. C'est dans la même proportion. Je reviens à la lettre. Elle dit, j'ai jeûné 2 jours, mais je ne me suis pas mise à genoux. J'ai simplement perdu 1,5 kg. Je savais qu'il fallait me mettre à genoux. Mais mes jambes ne voulaient pas plier. Il a fallu que je me force pour prendre cette bonne position pour prier. Et ça, c'est la clé. C'est la volonté humaine que Dieu nous a donnée, qu'on peut utiliser, là. Comme les jeunes filles que je vous disais tantôt, qui sont capables d'arriver à une cure effroyable d'amaigrissement qui n'a pas de sens, là. C'est par la volonté humaine. Alors, par la volonté humaine, on peut dire, on se met à genoux. C'est le moment. Et on peut le faire. Je continue la lettre. C'est dur d'en arriver à me mettre à genoux, mais une fois, ce fut dur, pardon, d'arriver à me mettre à genoux, mais une fois que j'ai commencé à prier avec ferveur, ce fut différent. J'ai demandé à Dieu qu'il me donne un esprit de repentance. Je sais que lorsqu'on se repent de quelque chose, on a le cœur brisé à ce sujet. Mais je pleurais pas. Je voulais changer, mais aucune larme ne venait pour montrer que je regrettais profondément. Après avoir demandé à Dieu, à plusieurs reprises, de me donner un véritable esprit de repentance, il me l'a accordé. Et j'ai pleuré. Mais ce n'est pas moi qui faisais venir les larmes. Et je sais aussi que même après cela, tout n'est pas rose. Mais je sais que je vais croître à nouveau. C'est pourquoi je vous écris pour vous dire que je veux maintenant désespérément vivre comme Dieu veut que je vive et faire ce qui est bien. Ça, c'est la vraie repentance. Là, je veux désespérément vivre comme Dieu me montre et faire ce qui est bien. Il y a un zèle, il y a un feu là-dedans. On dit que ce ne sera pas facile, mais c'est ça que je veux. Puis avec son aide, je vais y arriver. Je continue la lettre. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'aide de Dieu et j'ai besoin de l'aide de ses ministres par leurs conseils. J'ai beaucoup de questions et je veux connaître le point de vue de Dieu absolument. Je réalise à présent que j'ai blessé et fait du tort et du mal à plusieurs personnes. Je veux leur écrire et leur dire à quel point j'ai honte de moi-même. Fin de la citation, fin de la lettre. Ça peut arriver à chacun d'entre nous de nous éloigner de Dieu si nous ne nous disciplinons pas chaque jour, si nous ne déterminons pas de marcher proche de Dieu. Et vous savez une chose, la vraie repentance, elle est facile à voir dans un sens parce qu'automatiquement, elle produit des fruits. Elle produit des changements dans une vie. Allez à Matthieu 3. Elle produit des changements, c'est inévitable, ça ne peut pas faire autrement, ça ne peut pas être caché. Matthieu chapitre 3, c'est pas comme dans certaines réunions de certaines religions où on chante, par exemple, vous avez peut-être déjà vu ça à la télévision, « Venez comme vous êtes, le Seigneur vous aime comme vous êtes, venez comme vous êtes ». Ça veut dire pas besoin de changer, pas besoin de vous repentir, pas besoin de vivre selon les lois de Dieu, restez dans vos vieux péchés. Vous n'avez pas besoin de changer. Matthieu 3. En préparant la venue du Christ et l'annonce du message de l'Évangile, son cousin, Jean-Baptiste, le cousin du Christ, a prêché. Il a prêché quoi? Matthieu 3 et le verset 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous. Repentez-vous. Première chose qu'il disait, voyez-vous, la chose de base, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Versets 5 et 6, on peut aller plus loin maintenant. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, pourtant des gens qui observaient techniquement les lois à l'époque, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et la colère à venir dont il est question ici, c'est la colère de l'agneau qui approche sur la face de la terre. Et la peur de cette colère-là peut parfois aider à faire les autres pas, mais il faut faire les autres pas absolument. Et verset 8, regardez ce qu'il dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc, il doit y avoir des signes, il doit y avoir des évidences dans notre vie qu'il y a des changements. Et les gens doivent être en mesure d'y goûter autour de nous, d'être capables de l'apprécier. Alors, voyez-vous l'importance de la repentance? C'est ce à quoi Dieu nous a appelés premièrement. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du merveilleux monde à venir, parce que le Christ vient bientôt. Mais repentez-vous et continuez à vivre dans une attitude de repentance. Et c'est un don. Donc, demandons à Dieu de nous guider, de nous corriger, de nous encourager, de nous fortifier, parce que tout vient de lui. Et lorsqu'on arrivera dans le monde à venir, on ne pourra pas être orgueilleux et fier de quoi que ce soit. On va lui dire merci de tout ce que tu as fait en moi. Nous, on lui aura demandé. La repentance continuelle, c'est la base de l'Évangile, c'est le point de départ de notre conversion, c'est l'attitude à cultiver chaque jour jusqu'au retour de Christ, et ça fait une grande joie dans la salle du trône du Dieu vivant, pour le Dieu vivant et pour le Christ notre Sauveur.